La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour, la danse des mots aujourd'hui qui se promet de passer 30 belles minutes en compagnie de La Belle de Casa. Voilà qui explique mon lapsus. La Belle de Casa, un roman qui vient de sortir aux éditions Actes Sud, un roman d'Incoli Jean Bofan qui se passe, vous l'aurez deviné, à Casablanca et qui, dans une histoire haletante et extrêmement noire, va mêler des Marocains, des Saoudiens, des Congolais, des Sénégalais et quelques autres. Entretien avec Incoli Jean Bofan. Bonjour Jean Bofan.
Bonjour, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Sitôt le drame connu, un même cri retentit dans tout le quartier, Derb Talian. Ishraq Metet, Ishraq est morte.
Ishraq est morte.
C'est la première phrase de votre roman qui donne le ton. On sait déjà que ça sera un roman policier. Est-ce que cette étiquette vous va bien? Est-ce que vous avez voulu écrire ce qu'on appelle un roman policier? Un polar dans un vocabulaire plus familier?
Non. Bon, je suis pas Agatha Christie, donc moi, les romans policiers, non, j'écris. Non, c'est pas ça, mais il fallait. C'était une intrigue, et puis voilà, elle est décédée, bon, qu'est-ce qui se passe après? Et voilà, moi c'est plutôt
Est-ce que c'est pas ça qui fait le roman policier? Ou parfois le roman.
Il y a une enquête.
On commence sur la découverte d'un corps. Et d'un corps mort.
Si, mais dans un roman policier, il y a une enquête. Et chez moi, l'enquête, elle est un peu escamotée, quoi, au profit d'autre chose.
C'est vrai, parce que très souvent, dans le roman policier, pour ne pas dire le roman noir, après la découverte du corps, on essaye de savoir qui a tué. Et on va au-delà. Alors que là, ce début nous amène à une série de rétrospectives et de flashbacks, et on va non pas essayer de savoir qui a tué, mais qui était cette Ishraq, comment elle vivait, peut-être même pourquoi elle est morte, alors que c'est quand même relativement flou, mais on tourne la tête. C'est une structure, c'est un mouvement que vous avez décidé dès le départ de votre écriture.
Oui, je voulais pas, je voulais pas mener une enquête, je voulais pas faire un roman policier. En fait, bon, j'aurais pu le faire, mais c'est pas ça qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la vie de cette femme, sa mort. Ok, c'est des concours de circonstances, mais c'est pas voilà. Mais il y a beaucoup de femmes comme ça dans le même cas. Donc, personne n'a jamais réussi à régler leurs problèmes. Donc moi, je suis pas là pour régler le problème d'Ishraq, mais je voulais connaître Ishraq. Moi, c'était elle que je voulais voir. Je voulais voir le microcosme dans lequel elle vit. Et je voulais voir la vie à Casablanca.
Je voulais connaître Ishraq, dites-vous. Mais qui peut la connaître sinon vous, puisque elle est née de votre imagination.
Oui,
est-ce qu'au départ vous ne la connaissiez pas?
Mais vous savez ce que c'est les personnages, hein, vous les créez et après ça devient, ils vous échappent un peu.
Ça, qu'est-ce que ça veut dire créer un personnage? Vous créez quoi d'abord?
Je crée quoi d'abord? Je crée un. C'est pas un être humain, c'est plutôt il y a un être humain, mais il y a autre chose que ça. Je crée d'abord le traumatisme de l'être humain. En général, c'est ça.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça dit quelque chose qui achoppe et qu'il faut régler. Et qui achoppe, c'est ce qui fait que la vie achoppe. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, en général, c'est des choses assez dures. Une condition de vie, un accident, un drame. Et bon, moi, j'aime bien ces choses-là et ça achoppe. À ce moment-là, la vie est beaucoup plus compliquée à mener. Et voilà. Et moi, j'aime bien regarder, savoir comment c'est. Les connaître, c'est justement savoir quel mécanisme, quels outils cette personne va utiliser pour avancer.
Alors, quel est le traumatisme d'Ishraq? Est-ce que c'est sa beauté?
Sa beauté peut être c'est un poids pour elle, en tout cas. Parce que, avec sa beauté, elle est vue en tant que femme, un point, un trait. Elle est vue en tant que femme. Et peut-être même pas avec un grand F, le femme en question, vous voyez ce que je veux dire. Donc, mais le traumatisme de Ishraq, c'est l'absence du père, surtout. Elle a jamais connu son père, elle a été élevée seule, elle a été élevée avec sa mère, et ça la travaille. C'est...
Non seulement elle n'a pas connu son père, mais elle ne sait pas qui il est.
Elle ne sait pas qui il est, et c'est cette quête-là, pendant tout le roman, qui la travaille, elle. Les autres protagonistes ont d'autres soucis, mais elle, c'est surtout cette absence de père qui...
C'est vrai, mais en lisant votre livre, j'avais quand même l'impression qu'il y avait deux poids dans les deux plateaux de la balance. D'un côté, l'absence de père et l'incognito du père, et de l'autre côté, sa beauté sur laquelle vous insistez très fortement, qui est très importante et qui est, au lieu d'être une bénédiction des dieux, est d'une certaine façon une malédiction.
Oui, c'est ce que je viens de dire là. C'est un peu, c'est un poids, c'est un fardeau pour Ishraq, parce qu'elle est tout de suite, pour elle, c'est comme un stigmate. Sa beauté devient comme un stigmate.
Et pourtant, elle ne la cache pas.
Elle n'est pas ostensible. La beauté ne se cache pas. La beauté ne peut pas se cacher, même pas derrière une gonne, un voile, ou voilà, même pas, parce que les yeux parlent.
Les yeux parlent.
Les yeux parlent.
Est-ce qu'être écrivain, c'est faire parler les yeux de ces personnages?
Mais oui. Il en fallait quand même peut-être deux lignes pour décrire le regard d'Ishraq, ou trois lignes.
Donc vous faites parler des gens qui ne disent rien d'une certaine façon. Elle n'est pas bavarde, Ishraq, hein.
Elle
consomme peu. Elle ne s'offre pas, elle ne se donne pas, elle ne tombe pas amoureuse, ou en tout cas rarement. Elle ne le fait que dans l'ombre de son père qu'elle ne connaît pas, avec un homme plus âgé qu'elle. Et elle parle peu.
Elle parle peu, mais moi j'ai des personnages comme ça qui... Moi je me rendais compte aussi avec Célio Matémone, hein, dans Mathématiques Congolaises, ils parlent peu. Ils sont quand même beaucoup plus bavards. Ce personnage-ci, l'autre personnage en dehors d'Ishraq, Cécé, ils parlent beaucoup aussi. Mais Ishraq parle peu. Est-ce qu'ils ont besoin de parler? Mais ce sont des gens qui sont touchés. Hein, sont quand même elle est plutôt dans sa pensée, Ishraq. Ishraq, on la retrouve beaucoup dans le roman, mais on la retrouve chaque fois dans sa pensée. On est beaucoup dans sa pensée, ses paroles.
C'est-à-dire qu'on la trouve dans son énigme, et vous mettez un petit peu le lecteur dans la position des passants de Casablanca qui voient Ishraq, qui sont saisis par sa beauté, mais qui n'arrivent pas à l'atteindre parce qu'elle est tout le temps en train de se protéger.
Elle est tout le temps en train de se protéger, et quelque part, moi-même, j'ai essayé de percer cette carapace. C'était un peu difficile, quoi.
La danse des mots, Yvan Amar.
Des mots entourés par Cécé, Mohamed Cherkaoui, Mokhtar, Dramé, Farida, Zahira, il y en a pas mal des personnages dans la Belle de Casa, Jean Bofan.
Oui.
Ils sont tous là comme des ombres qui bougent, qui parlent eux beaucoup pour masquer justement ce que Ishraq n'arrive pas à dire.
Ishraq, quelque part, moi-même, j'étais un peu...
Parce que Ishraq, c'est un personnage en creux, on a l'impression. Alors que les autres sont des personnages en plein, qui saillent.
Si. Déjà, il y avait cette absence... Comme j'ai déjà supprimé Ishraq dès le début du récit, donc les choses devenaient... Mais malgré tout, je devais quand même garder Ishraq vivante. Ça dit qu'elle pouvait plus vraiment beaucoup parler, elle pouvait pas beaucoup s'exprimer, mais il fallait que je la garde vivante. C'est pour ça que tu y as toute cette panoplie de personnages. Comment tuer une femme dès le début d'un roman et comment la restituer ensuite? Et la restituer, je ne pouvais que la restituer à travers les personnages. Je ne pouvais que passer par là et pouvoir de l'atmosphère de la ville, ce que c'est l'atmosphère de la ville aussi, parce que l'atmosphère de cette ville de Casablanca conditionne aussi la vie des êtres humains là.
Alors, est-ce que la ville de Casablanca, c'est l'autre personnage important de votre roman?
C'est l'autre personnage important. Vous savez, Il y a une question de jalousie là quelque part, parce que j'ai beaucoup glorifié, j'essaie de magnifier Kinshasa. J'ai voulu rendre hommage.
Kinshasa est très présente dans vos deux précédents romans, c'est sûr.
Si. Voilà, je voulais rendre gloire, rendre sa gloire à Kinshasa, la montrer, disons. Et quand j'ai commencé à écrire La Belle de Casa, au départ, je me suis senti un peu frustré que j'aurais pas fait la même chose pour Casa. Et puis en fin de compte, donc j'ai travaillé beaucoup sur Casa. Ce livre aurait dû être un peu plus mince que cela. Mais je voulais que Casa soit aussi belle que Kinshasa.
Est-ce qu'elle l'est?
Oui. C'est une très belle ville.
Vous en parlez beaucoup. Hein,
oui.
Qu'est-ce qu'on trouvait à Casa? On y trouvait du prêt-à-porter. Gucci, Armani, Ilfiger, Dolce Gabbana, des chaussures Adidas, Puma, Nike, venues de pas loin, de manufactures à la périphérie de la ville, de l'électronique, des smartphones de toutes marques, du haut de gamme Apple, qui s'est allé dans des cages de verre dont le système de surveillance n'était autre que l'œil du vendeur assis sur un tabouret à proximité. Et puis il y avait du cuir, des vêtements traditionnels, des tapis de prix tissés de laine ou de fibres végétales lorsqu'ils étaient de technique berbère. Le terme Kitoko s'affichait en grand sur le fronton d'une échoppe tenue par un Kazaoui lingalophone. À quelques pas, un espace profond était dédié aux marchands venus de divers pays d'Afrique. Les coiffeurs, les coiffeuses officiaient dans tous les coins. Les tresses étaient nouées et dénouées par les doigts agiles des femmes sous les conversations et les commentaires partagés par tout le voisinage. De jeunes aspirants, beaux gosses, s'essayaient à la passivité sous la tondeuse, soulagée par les basses lourdes et syncopées d'un tube nigérian. On y trouvait tout aussi bien d'une dolée que du plantain, du poisson fumé que de l'okra. On s'exprimait dans des langues issues du centre, de l'ouest et même de l'est d'Ifriqiya. Tous les maîtres, un Ivoirien, un Sénégalais ou un Mauritanien, interpellaient cessé d'un « Le Congo, ça va ? Ça va, grand ?» lorsque celui qui saluait était un cadet ou d'un « Ta fiancée était trop belle, cessé. » Ishraq était juste vêtu d'un haut de survêtement Adidas, noir et blanc. Alors, on voit bien le grouillement de la vie. C'est un personnage que Casa, mais c'est un personnage qui bouge de partout.
On voit que c'est un personnage d'aujourd'hui. C'est comme quand j'ai parlé de Kinshasa, le laboratoire du futur. On voit que c'est un peu cette ambiance-là. C'est un personnage d'aujourd'hui. C'est une ville. Vous savez, j'ai jeté mon dévolu sur le Maroc. Il y a une grande communauté marocaine à Bruxelles, où j'habite. Et bon, j'ai beaucoup parlé avec eux, mais tous me renvoyaient vers d'autres villes du Maroc. Des villes beaucoup plus typiques, Marrakech, Tanger, Fès. Mais non, moi, il me fallait une ville, une métropole comme n'importe quelle grande ville de ce monde. Et donc, ce foisonnement me plaît assez, ce mélange avec, on voit les griffes et tout, j'en ai parlé au sujet de Kinshasa. Bon, c'est vrai qu'il y a des sapeurs à Kinshasa, mais à Casa, il y a quand même Farida Azouz, qui est quand même la sapeuse de La Belle de Casa, du roman. Donc je voulais remettre quelque part on parle toujours de cette Afrique du Nord, de cette Afrique qui est arabe, et elle est arabophone, mais pour moi elle est africaine d'abord. Elle est juste arabophone, faune, je dis bien faune, mais elle est africaine. Et je voulais prendre le Maroc et en fait le mettre au milieu de l'Afrique, en l'occurrence le placer au Congo.
Est-ce que c'est une ville que vous connaissez, Jean Bofane?
Je connais peut-être moins Casablanca que Rabat. Enfin, entre-temps, j'ai quand même appris à la connaître avant d'écrire. Je la connaissais moins que d'autres.
Est-ce que vous y avez été au moment où vous écriviez votre livre, dans le but de vous imprégner un petit peu de ce que c'était?
Non, pas du tout. J'ai pas du tout procédé comme ça. C'est-à-dire que je connaissais d'autres villes. Je connaissais Rabat, Marrakech, je connaissais Oujda, etc. Et puis bon, il m'a fallu écrire sur le Maroc. Et comme je vous dis, c'était les critères, c'était tout à fait objectif. Voilà, je veux une grande ville, donc Casa.
Est-ce qu'on écoute une ville comme on peut écouter un personnage ou même un média? Est-ce qu'on écoute une ville comme on écoute une radio, par exemple?
On écoute une ville et une ville peut vous envahir. Une ville peut vous carrément englober. Et j'ai eu peur de cela. J'ai eu peur de cela. Je connais pas la ville. Je sais pas ce qui m'attend en allant dans cette ville. Je sais pas ce qui va m'arriver. Donc, je vais d'abord me concentrer sur mon histoire.
Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'une ville puisse vous englober?
On risque de perdre. Moi, je voulais. Il y a cette mort d'Ishraq. Pour moi, c'était le titre du mon titre de travail n'était pas La Belle de Casa. Mon titre de travail, c'était Ishraq Metet. Ishraq est morte.
Mais les francophones n'auraient pas compris.
Donc voilà, c'était mon titre de travail, ça dit je devais me focaliser.
Qui est-ce qui a trouvé la belle de Casa? C'est vous, votre éditeur?
Marie Demeure, mon éditrice. C'est elle qui...
C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça fait penser évidemment à la belle de Cadix.
Oui.
Et puis, c'est un bon reflet du livre.
C'est un bon reflet du livre et je vous expliquerai après ce que ce titre a produit sur le roman. Donc je voulais pas me faire avaler par Casa. Je voulais plutôt être accaparé par Ishraq. Comme elle est morte, c'était très difficile de me la garder. Donc je me suis dit, je vais d'abord travailler le livre. Je vais travailler d'abord le récit. Donc j'ai travaillé le récit, mais bon, je dois quand même placer le récit dans une certaine topographie. Alors bon, nous sommes dans les technologies de l'information et de la communication. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé Google Maps. Moi, je voulais la Médina, je voulais la mosquée Hassan II et je voulais le front de mer. Et un quartier cossu où habiterait... Donc mes personnages habiteraient un quartier populaire, les principaux, mais il y en a un quand même qui habiterait le Cherkaoui habiterait quand même un quartier riche. Donc j'ai pris un quadrilatère qui commence de la Médina, vous allez vers l'ouest et vous avez la mosquée Hassan II, vous avez le front de mer et vous descendez. Donc voilà, j'ai pris ce quadrilatère là parce que le front de mer j'en avais besoin parce que j'avais besoin de voitures qui passent. Je voulais qu'Ishraq soit dans une voiture avec de l'air marin qui rentre en trombe par les fenêtres. Ça, tout ça était déjà prévu. Donc j'ai d'abord travaillé sur Google Maps. J'ai vu les avenues, mais sur Google Maps uniquement pour justement ne pas être avalé. Quelque chose de froid. Je voulais quelque chose de froid. Pas sentir les vibrations de Casa. Juste froid. J'ai regardé ça comme ça et puis j'ai écrit.
Donc les vibrations, vous les avez inventées?
Après, attendez, j'écris toute mon histoire, et ensuite, j'étais à Casa. Et ensuite, j'étais à Casa, je me suis bien imprégné pendant quelques semaines, j'étais à Casa, je suis rentré, et curieusement, quand je suis rentré, Casa n'était pas en moi. Il a encore fallu que, pourtant, j'ai bien vécu là-bas, j'ai vu des gens, j'ai fait des interviews, j'étais visiter même la mémoire de Casa, j'étais voir l'architecture, j'ai vu des associations, j'ai vu... pas mal de monde, beaucoup d'Africains, j'étais jusque chez eux. Et puis, curieusement, quand je suis rentré de Casa, il m'a fallu 2 mois avant que je métabolise Casa. Il a fallu que je digère, et puis après, Casa est apparu.
Tant le choc avait été grand, c'est
tellement
ça?
Tellement le choc était grand, et il y a eu cette écriture-là. Et puis, à un moment donné, j'ai eu la couverture qui est arrivée aussi. Le titre... La belle de Casa, il y a la couverture qui est arrivée, il y avait moi qui étais en train de terminer cette écriture de Casa. C'est parce que l'histoire est très sombre.
Ah ça, tout à fait.
L'histoire est
Mais
sombre.
Alors, puisque vous évoquez cette couverture, décrivez-la nous. C'est une photo, c'est pas la belle de Casa.
Non, c'est Monsieur Kezia Jones. Il se fait que cette couverture, au départ, parce qu'il a quand même des lunettes solaires, donc on voit pas vraiment son visage. Cette couverture m'a plu tout de suite. C'est Marie Demeure, mon éditrice, qui me l'a envoyé. Mm-hmm. Elle me l'envoie.
C'est assez androgyne d'ailleurs.
Mais oui, tout à fait. Et puis c'était un migrant au Maroc. Donc c'est le 21e siècle en fait. C'est une photo qui représente le 21e. Ce n'est pas le Maroc d'il y a quelques temps, il y a quelques années, même pas d'il y a 20 ans.
Alors encore un mot sur les langues, puisque c'est quand même ça qui nous intéresse. On a vu que votre personnage féminin est très mutique et que l'autre grand personnage du roman, qui est la ville, non seulement est très bavard, mais est très polyglotte. Vous étiez sensible à ce polyglottisme de Casa qui apparaît à toutes les pages de votre livre, Jean Beaufard.
Mais oui, moi je vous dis déjà vu de Bruxelles. J'ai vu de Bruxelles où parce que la première communauté africaine en Belgique, faut pas oublier, c'est quand même les Marocains. Alors, je dis bien africaine, c'est les Marocains, et puis les secondes, c'est nous les Congolais. Mais on voit déjà une espèce de mélange entre le français et l'arabe chez nos jeunes, chez des gens comme mes enfants, des gens les moins de 20 ans. Déjà, ils se fréquentent entre eux, donc il y a déjà ce mélange-là, déjà. Donc moi, j'y suis habitué. Parce que parfois, mes enfants, ils viennent à la maison avec un mot qui vient d'ailleurs, qui vient justement de ce Maroc.
Et par exemple, vous avez des souvenirs de mots que vos enfants ont amenés à la maison?
Je sais pas, mais il y en a quelques-uns là-dedans. J'ai pas mis tout, j'ai pas mis les mots que moi j'utilise d'habitude, c'est circonstanciel. Donc voilà, il y a tous ces mots qui sont là, et puis arrivé au Maroc, évidemment, je les ai retrouvés. Donc c'était assez, mais moi j'ai la prononciation qui est compliquée, c'est pour ça que je vous dis rien.
Dans un passage que j'ai lu tout à l'heure, un moment, il y a une expression qui m'a vraiment plu, c'est pour ça aussi que j'avais pris ce passage. D'abord, il est question de Casa, mais ensuite on parle d'un Casaoui lingalophone.
Ouais.
C'est difficile à comprendre, un Casaoui lingalophone, Qu'est-ce que ça veut dire un habitant
parce que
de Casablanca
j'ai vu cette enseigne...
qui parle le lingala. Et je me suis dit, c'est une bonne projection de ce que c'est que
mais
votre
oui.
livre.
Dans la Médina de Casa, il y a une grande enseigne là, à un moment donné, où il y a une enseigne Kitoko. Peut-être que les Marocains, ils n'imaginent pas ce que ça veut dire, mais Kitoko, c'est la beauté. Et ce type-là, j'étais interpellé en voyant Kitoko, puis j'ai commencé à lui parler, et puis il me dit Sangonini, Sangoboni, vous allez bien? Il a commencé à me parler en lingala. Donc voilà, ça dit que la présence des Africains là-bas, elle est là. Et si un commerçant marocain commence à parler lingala, c'est bon signe.
Dans la danse des mots, à propos de la belle de Casa, qui ne s'appelle pas Main Basse sur la ville, mais qui aurait presque pu s'appeler comme ça, Jean Bofane, parce qu'il est question du meurtre d'une très belle femme, il est question en même temps de spéculation immobilière et de ce que ça peut impliquer dans la vie de tous les jours.
Que ça peut impliquer, il y a des choses graves, voilà, parce qu'il y a une spéculation immobilière qui existe réellement. Justement sous le front de mer de Casa.
Oui, avec tout ce que ça implique, l'expulsion des gens pour raser des vieilles maisons et pour faire des complexes de luxe, pour gagner de l'argent, sur le dos des plus défavorisés.
Des plus défavorisés. Et alors, il y a un espèce de statu quo qui est là dans ces quartiers, c'est le quartier de Derb Talian et le quartier de Cuba. Il y a un statu quo, le gouvernement et le peuple, la population se regardent comme ça en chien de faïence. Et donc on veut chasser des pauvres. C'est un peu voilà, c'est ce 21e siècle qui est brutal où les peuples sont soumis à rude épreuve et le Maroc ne fait pas exception.
Ça aussi, ça fait partie des habitudes du roman noir de dénoncer un fait politique et sociologique à travers une histoire crapuleuse.
Mais oui, parce que je voulais parler parce que moi je viens de cette communauté africaine à la peau noire et il y a beaucoup de j'entends beaucoup de choses sur cette communauté à quoi ils sont. Ils sont en but à quoi au Maroc quand ils remontent, quand ils viennent du sud et qu'ils remontent et qu'ils sont au Maroc avant de passer le Gibraltar. Mais d'abord, je me suis rendu compte que tous ne voulaient pas passer Gibraltar. Beaucoup restent là-bas parce que là-bas, ils peuvent avoir des papiers, ils peuvent avoir du travail. S'ils ne trouvent pas du travail, ils peuvent monter un petit business. Donc là-bas, ils se débrouillent par rapport beaucoup mieux qu'en France ou en Belgique où je vis. Et donc il y a un meurtre d'Africains pour chasser des gens, mais il fallait créer une terreur pour que les gens quittent les squatteurs, disons, quittent les immeubles. Et donc il y a ce meurtre qui se passe, oui, parce que je voulais justement montrer que voilà que des choses peuvent se passer, mais c'est souvent circonstanciel. Les choses ne viennent jamais comme ça. Quand on tue des gens par dizaines de milliers dans le Kiv ou là-bas, c'est pas par cruauté, c'est pas parce qu'on n'aime pas les Kivuciens, mais il faut chasser les gens, donc on instaure la terreur et voilà et les espaces vides au profit de ceux qui veulent prendre l'argent.
Alors Jean Bofane, vous disiez vous-même que vous habitiez Bruxelles, une autre grande métropole très africaine. On n'a pas le temps aujourd'hui, mais une autre fois je vous demanderai volontiers ce que ça vous fait justement d'habiter Bruxelles et de parler d'autres villes. Mais la question que je voulais vous poser pour terminer cette danse des mots, c'était sur la temporalité, sur le temps de votre écriture. Le roman, il est compliqué, il est assez dense. Est-ce que vous l'avez beaucoup maturé dans votre cerveau avant de vous mettre à l'écrire ?
Toujours. Ça dit, mon roman, il est terminé, mais avant que je l'écrive, avant de le rédiger, il est terminé. Vous pouvez demander à mon éditrice, ils connaissent
non,
l'histoire.
Non, mais je crois sur parole.
Ils connaissent mes histoires à fond, avant même de commencer quoi que ce soit. Parce que mes structures sont toujours compliquées. Donc je suis obligé d'être très précis, donc je détaille bien toutes les scènes, je mets en scène les scènes. Et puis alors ensuite je m'assieds et je rédige.
Et comment travaillez-vous justement dans cette préhistoire de l'écriture ? Est-ce que c'est écrit ? Est-ce qu'il y a des fiches ? Ou bien est-ce
non,
que tout,
tout
est dans
la tête et en plus c'est dans le désordre.
Ah !
Ouais, j'ai écrit ça complètement dans le désordre. J'écris toujours dans le désordre. Mais
qu'est-ce
ça
que
dit...
ça veut dire écrire dans le désordre ?
Dans le désordre, ça dit j'ai un roman, les deux précédents par exemple, j'ai le point 1, 2, 3, 4, ça va pas jusqu'à 20, donc j'ai à peu près 20 grandes scènes. Et mais je les écris un, le deuxième, le troisième, quand je bloque au quatrième, je passe à la 17e parce que elle m'amuse, et puis voilà. Et j'écris dans le désordre, mais j'ai quand même répertorié ça, j'ai quand même mis ça dans l'ordre sur mon papier, sur mon repère, disons. Mais celui-ci, non. Celui-ci, j'avais des points épars, de tout à fait séparés, donc j'ai écrit ça complètement dans le désordre, et après il y avait une espèce de montage, comment monter ces séquences pour que ça devienne un roman lisible.
Et ça se fait facilement, le passage à l'écriture ?
Non.
Qu'est-ce qui est difficile, alors ?
Prendre l'envol, c'est, voilà, moi j'appelle ça, c'est prendre l'envol, et ça prend toujours un peu de temps, quoi.
Alors, je parlais tout à l'heure de polyglottisme à propos de la ville de Casa.
Oui.
Je pourrais surtout en parler à propos de votre livre, qui est écrit, bien sûr, en français,
oui,
qui est hérissé de mots qui ne sont pas français.
Choukran pour votre question, mais oui, évidemment.
Pourquoi, évidemment, justement?
Mais oui, mais parce que moi, j'aime bien. Il y a pas que les mots étrangers, il y a des textes, il y a du texte littéraire
aussi.
Oui, il y a
même du texte,
il y a du texte littéraire, vous savez, voilà, moi j'aime bien, il y a les textes, spécialement les textes de Kaouta Archi, qui justement, qui console de cette absence du père. Il y a des textes de Booba, il y a des textes de Assia Gebbar, évidemment. J'aime bien convoquer des esprits quelque part.
À vous convoquer les esprits, les textes, et de temps en temps simplement le lexique. Hein. Les ligablos, par exemple, ou les ligablos,
c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je prends le Maroc et je le mets carrément en Afrique centrale, quoi, au milieu du Congo, en plein Kinshasa.
Et ça, ça se fait par le vocabulaire.
Par le vocabulaire, que les Marocains le veuillent ou pas, mais c'est ce que j'ai fait. Et voilà, et j'espère qu'ils vont s'y plaire au milieu de cette Afrique centrale.
عبسك قدامي مهم الايام الدايمة حاس براسي تاني شاد طريق الحافة باين هاد الخيبة بين جنابي حايمة قدامي وانا عبري اخليلي بالحجر وبانت لي ياقوتة غاشي عيني وبغات تحكي لي في طريقي وشفتها الياقوتة قدامي وانا عابر تحرصها حيا خضرا تقتال الموتة طفتها وبديت نجري ونجاري في ديات تبري وتلالي نهار التالت قدامي يا صديقي وسط الرملة بانت لي ياقوتة وحيدة حزينة وبغات تشكي لي تحرصها حيا بنيا بالغولة سرقتها وبديت نجري ونجاري قالت لي يا براد حزاني حزينة مريضة وما عرفت مالي حدود تشوف مراضي ومقامي قطع الصحراء وغادي ونجول بين الشرق والغرب غادي ونقول تمشى وتابع حدود تشوف حياتي منسي.
C'est Medina Souli qu'on entend aux côtés de Titi Robin dans La Danse des Mots, qui aujourd'hui se félicitait d'avoir lu La Belle de Casa d'Incolis Jean Bofane, paru chez Actes Sud. C'était donc La Danse des Mots.